une histoire certainement dont vous vous souvenez bien, mais qui nous servira un petit peu d'arrière-plan à notre méditation ce matin. C'est la visite que Jésus fait avec quelques-uns de ses amis chez Marthe et Marie. Et pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village, et là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, et celle-ci vint s'asseoir au pied de Jésus, et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Le deuxième texte, qui sera un peu plus notre base ce matin, est tiré du psaume 37 et je vais le lire ensemble et je couperai certaines parties. Un psaume de David. Et David écrit « Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Mets en l'Éternel toute ta confiance, fais ce qui est bien, et dans le pays tu demeureras en sécurité. En Dieu mets ta joie, et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir, aie confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui, ne t'irrite pas devant le succès qu'obtiennent les uns, ni devant les ruses que déploient les autres. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car en fin de compte, tu ferais le mal. » Et plus loin, lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut trébucher, cependant jamais il ne tombera. L'Éternel le tient par la main. J'étais un enfant et me voilà vieux. Mais jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Tout au long des jours, il a compassion et il prête aux autres. Ses enfants seront en bénédiction. Évite le mal. Accomplis le bien. Tu demeureras pour toujours. Car l'Éternel aime qu'on suive le droit, et ceux qui le servent ne seront jamais délaissés par lui. Ils seront gardés éternellement, mais les malfaisants seront supprimés. La postérité de tous les méchants sera retranchée, tandis que les justes auront le pays comme possession. Ils l'habiteront éternellement. Attends-toi à l'Éternel. Et suis le chemin qu'il te recommande. Il t'honorera par la possession de tout le pays. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. J'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un cèdre vert et florissant. Mais il a passé. Voici qu'il n'est plus. J'ai beau le chercher, il est introuvable. Observe comment vit l'homme au cœur droit, l'homme au cœur intègre. Tu constateras que l'homme de paix a un avenir. Mais vois les rebelles, c'est tout autre chose. Tous seront détruits et n'auront plus aucun avenir. Le salut des justes vient de l'Éternel et il est leur forteresse au jour de détresse. Il leur vient en aide et les délivre de tous les méchants. Il les sauvera car ils ont cherché leur refuge en lui. Un bon nombre d'entre vous, êtes certainement en train de faire un certain nombre de projets pour vos vacances. En tout cas, c'est ce que moi je fais. Je me surprends même quelquefois pendant le travail à me dire, vivement que ça arrive, il y a des choses que je veux faire un break, je veux être dans la nature, je veux pouvoir marcher pieds nus, je veux pouvoir être avec mes enfants et avec ma famille. Et on fait tous un certain nombre de projets. Alors certains font des projets parce qu'ils veulent faire autre chose. Il y en a assez d'être dans un bureau, je veux aller à la montagne. Je veux m'épuiser physiquement parce que toute l'année je suis assis et je ne fais pas assez de sport. D'autres aimeraient plutôt peut-être simplement se reposer dans un hamac et se reposer, tout simplement pour se requinquer, se dire « c'est pas vrai, la rentrée est déjà là, je la vois au-delà de mes vacances, mais il faut absolument que je prenne du recul, que je me requinque pour repartir. » Et on est tous, d'une certaine façon ou d'une autre, légitimement à la recherche d'un moment de repos, de calme, parce que, et ça, je pense qu'on est presque tous dans le même cas, on vit une vie tellement intrépide, une vie qui ne semble ne jamais s'arrêter, des projets qui ne semblent jamais aboutir, et puis un certain nombre de choses que l'on fait, et on se demande pourquoi on les fait, et on a l'impression qu'on tourne en rond et que rien ne progresse vraiment. Mais de façon peut-être un peu plus grave, on peut regarder un petit peu autour de soi et notre vie, puis on peut se demander, mais quand, à quel moment est-ce que la vie que je vis aujourd'hui va me donner des moments vraiment de paix et de repos? Et quand je regarde autour de moi, mais quand est-ce que je peux avoir un moment où je peux m'arrêter sans nécessairement me sentir coupable parce qu'il y a d'autres choses à faire? Ou simplement me disant, c'est pour un temps seulement, mais je sais très bien que la rentrée est là et que ça va être pire que tout. Et je pense que nous tous nous accordons que le monde et notre vie est rarement quelque chose qui nous procure du repos et du calme. Et je crois que les croyants sont pris dans le même piège que tous nos contemporains. On court, on s'essouffle. Et dernièrement encore, lorsqu'on parlait en conseil et tout, on se disait, il faut garder le rythme, il faut continuer, mais il faut prendre peut-être un petit peu de recul pour se reposer un petit peu, pour pouvoir repartir ensuite. Et pourtant, est-ce que lorsqu'on pense aux Écritures et qu'on pense à certains textes en particulier, est-ce que la vie du croyant ne devrait pas être en fait marquée par le repos ? Est-ce que ce verset qui caractérise tellement l'appel de l'Évangile et de la grâce qui est « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos », c'est pour nous une phrase tellement belle et imagée de la part de notre Seigneur qui est cette invitation à lorsqu'on arrive en sa présence, on peut se décharger et on devrait vivre une vie où on a déposé sur lui ce qui nous pesait. Ou alors ces paroles que le Seigneur dit, je vous donne ma paix. Mais oui Seigneur, tu nous donnes ta paix. Oui, tu ne la donnes pas comme le monde donne, mais enfin, entre-temps, la vie qu'on mène, elle est quand même turbulente. Il y a quand même un certain nombre de choses qui m'inquiètent constamment. Et ta paix, pas tous les jours. Et puis on a ces versets dans le livre aux Hébreux, où encore une fois, l'invitation à la grâce est en fait une invitation à entrer dans le repos de Dieu. Mais lorsque je pense à ces textes et lorsque je regarde ma propre vie, combien l'histoire de Marthe et Marie devient en fait un exemple parfait de ce que nous vivons. Et de façon très simple, elle illustre qu'en fait, comme Marthe, et comme dit le Seigneur, en fin de compte, nous ne nous préoccupons pas de l'essentiel. Nous ne nous préoccupons pas de l'essentiel. Ce qui aboutit, comme dans le cas de Marthe, à un agacement lorsqu'il voit sa sœur qui s'assoit au pied du Seigneur, et elle qui s'agite partout parce qu'il faut faire le service. Et il faut bien le faire, le service. Et il faut bien le recevoir, le Seigneur, avec toute la dignité qui lui est due. Et puis il faut bien quand même que notre maison ait bonne réputation auprès de tous les visiteurs. C'est légitime ce qui préoccupe Marthe. Mais la réplique de Jésus est tellement simple et claire. Et on ne peut pas plus clair. Et si aujourd'hui vous pensez à vos vacances, pensez à ces paroles comme étant ce que le Seigneur peut-être vous recommande de mettre en pratique. Et il lui dit, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais à contrario, ta sœur qui est assise à mes pieds et qui m'écoute, a choisi et a fait le bon choix. Le repos, comme je l'ai dit, est à l'évidence ce qui marque ou ce qui doit marquer la vie du chrétien. Et ça remonte même dans l'Ancien Testament, au moment où Dieu a donné le pays de Canaan. Il voulait que ce soit un lieu de paix pour son peuple, un lieu d'abondance, un lieu où le peuple pourrait jouir de sa présence en toute sécurité. Et où chacun pourrait, dans un sens, vivre sous son figuier et sous sa vigne en toute paix. Le Seigneur, pour cela aussi, a recommandé à son peuple de « Travaille 6 jours et puis le 7e, repose-toi. Repose-toi. Et puis comme moi, lorsque moi je me suis reposé au moment de la création, profite de tout ton ouvrage. Regarde-le, contemple-le. Et regarde comme c'est bon. Mais prends le temps de t'arrêter et de regarder ton ouvrage et de rendre grâce au Seigneur. » Ainsi, que ce soit par l'exemple de Marthe et Marie, ou en écoutant le psalmiste, tel que je reviendrai sur ce texte prochainement, pour trouver le vrai repos, il nous faut briser un cycle d'agitation et d'inquiétude. Il nous faut, et nous verrons ça dans le texte du psaume 37, il nous faut nous tourner vers le Seigneur, comme l'a fait Marie, et choisir la part qui ne nous sera pas enlevée. Et ce psaume 37 contient énormément d'indices qui doivent nous aider au quotidien. Et il n'y a rien de plus pratique que ce psaume dans la vie d'un croyant, de dire, très bien, moi je suis comme Marthe, mais je voudrais être comme Marie. Il nous faut briser le cycle de l'agitation et de l'inquiétude. Il nous faut nous tourner vers le Seigneur et il nous faut choisir la part qui ne nous sera pas enlevée. Brise le cycle de l'agitation et de l'inquiétude. La vie dans laquelle nous vivons, et déjà dans la vie dans laquelle semblait vivre le psalmiste, c'était une espèce de spirale dans laquelle il était pris, un tourbillon dans lequel il était pris, et il n'arrivait pas à s'en sortir. Et lorsque vous relirez peut-être ce psaume 37, vous verrez à quel moment il passe d'un côté, puis il passe de l'autre. D'un côté, il est absorbé et il descend, et de l'autre, il se relève, et il entend les paroles du Seigneur. Mais dès le premier verset, et je ne sais pas qui lui a appris à écrire un poème comme ça, mais directement, c'est un commandement, une injonction. Ne t'irrite pas. Ne jalouse pas. Et comme Jésus dit à un moment, Marthe, Marthe, peut-être la première des choses que le Seigneur nous dit lorsque nous sommes pris dans l'agitation et l'inquiétude, c'est stop, arrête, prends conscience que tu es dans une spirale descendante. Prends du recul, immédiatement. Parce que cette spirale est en train de t'entraîner vers le bas. Arrête. Et lorsqu'il est dit ici, ne t'irrite pas, ne jalouse pas, c'est que le psalmiste est irrité parce qu'il voit que les méchants sont en train de prospérer. Ce n'est pas juste, il y a des fidèles qui travaillent tout aussi durement, qui n'ont pas la même prospérité. Les méchants qui font les affaires de leur manière, c'est comme ça qu'ils prospèrent, mais ils le font de façon injuste. Et l'émotion monte dans le cœur du psalmiste, et il s'irrite en voyant cette injustice. Mais dans la deuxième partie du verset, ne jalouse pas, n'envie pas. Peut-être à certains moments, est-ce qu'on est pris dans le fait qu'en fait, oui, on envie. On envie la réussite du méchant. On envie la réussite des gens autour de nous. On envie ce que possède le monde. On envie une paix, ou plutôt une tranquillité dans laquelle il n'y a rien qui me dérange. Et en fait, on poursuit simplement notre propre calme, notre propre paix, plutôt que de rechercher ce que le Seigneur veut. Et ici, ce premier verset nous met en garde, c'est que la spirale dans laquelle nous sommes, c'est quelque chose qui est en train de nous tirer vers le bas. Nous sommes victimes de cela. Nous ne le maîtrisons pas. Dès lors que nos émotions sont engagées comme ça, et que ça produit en nous de l'irritation et de la jalousie, ou de l'envie même. Et encore une fois, pensez à Marthe. En toute légitimité, elle voulait bien faire. En toute légitimité, elle voulait accueillir le Seigneur. Mais elle était prise dans quelque chose qui l'attirait et qui l'éloignait de ce qui était l'essentiel. C'est un tourbillon qui nous tire vers le bas. Donc la première des recommandations qui nous est faite, c'est tout simplement peut-être de nous dire à un moment, il nous faut arrêter un tourbillon. Il nous faut arrêter un processus. Et dans beaucoup de processus de relations humaines, souvent on dira, il y a un moment, il faut prendre conscience qu'on est dans un processus qui est en train de nous mener à la destruction. Et là, il faut s'arrêter et se mettre de côté, prendre du recul et regarder les choses différemment. La deuxième chose qui nous est dite, c'est de s'attendre à Dieu. Et ici, c'est une des expressions qui est utilisée dans le psaume 37, mais j'aimerais en fait associer d'autres expressions qui se trouvent dans le psaume 37 à cette expression qu'on retrouve souvent dans le psaume, qui est « Attends-toi à Dieu ». La première des expressions qu'on trouve au verset 3, c'est de mettre en lui toute notre confiance et de faire ce qui est bien. De mettre en lui toute notre confiance et de faire ce qui est bien. C'est plutôt ne pas attendre simplement qu'on ait une explication ou une raison pour toute chose, mais c'est plutôt tout simplement de dire « je crois en ta parole et je vais obéir ». Même si j'ai un certain nombre de questions sur pourquoi est-ce que l'injuste prospère, pourquoi est-ce que le méchant prospère, ça ne fait rien. Mais dans un premier temps, je vais te faire confiance, même si je ne vois pas le bout du tunnel. Et je vais persévérer dans l'obéissance à pratiquer le bien et à faire ce que tu me demandes de faire, même si en toute apparence, cela ne semble pas conduire au résultat que je souhaite. La deuxième expression qu'on trouve aussi dans le psaume 37, c'est de remettre son avenir à Dieu. C'est proche d'avoir confiance. Mais combien d'entre nous aujourd'hui sommes préoccupés par notre avenir ou l'avenir de nos enfants? On pense à nos retraites. Ouh, il va falloir vivre un certain nombre de vies sans avoir de travail et tout. Est-ce que j'aurai de quoi vivre? Ah, mes enfants, dans quel monde est-ce qu'ils sont en train de grandir et qu'est-ce qu'on leur laisse? Avec des dettes extraordinaires dans nos pays? Des systèmes d'éducation qui produisent que des chômeurs? On a toutes les raisons de s'inquiéter de notre avenir. Mais là, il est dit tout simplement, l'avenir, remets-le à Dieu. Et si nous prenions un tout petit peu le temps pour repenser en arrière, ne serait-ce que sur les 20 ou 30 dernières années, combien on serait surpris que personne ne savait ce qui allait se passer? Que l'avenir, on ne sait pas toujours ce qui se passe. Et des événements arrivent, quelquefois bien heureux, quelquefois malheureux. Alors à quoi sert-il, nous dit le psalmiste, mais aussi Jésus plus tard, lorsqu'il enseignera en Israël, à quoi sert-il de se soucier du lendemain? Mais plutôt de activement remettre son avenir à l'Éternel. Et ici, il y a vers la fin de ce psaume, ce verset 25, là aussi où de nouveau le psalmiste il dit « oui ». Jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné. Et jamais l'Éternel ne livre le juste à la merci des méchants. Et là, le psalmiste lui-même a pu regarder dans sa propre vie et constater pour lui-même que c'est le Seigneur qui tenait la vie de tous ses enfants. Et c'est lui qui les garde, quels que soient les événements. Et que l'avenir n'a pas besoin d'être une source de soucis ou une cause d'inquiétude. Parce que c'est le Seigneur qui le tient et c'est lui qui mène son histoire là où il le veut. Le troisième élément qu'on trouve dans ce texte aussi, c'est celui de persévérer. Fais le bien, persévère. Nous-mêmes aujourd'hui aussi, on se dit quelquefois, bon, est-ce que le monde qui... est tellement difficile, je n'ai pas d'avenir, je ne sais pas où mettre ma confiance. Est-ce que ça va nous conduire à une inactivité, à baisser les bras, à nous retirer du monde peut-être, et à dire tout simplement, on ne peut rien y faire? Non. Le Seigneur ici nous invite, ou le psalmiste nous invite à persévérer. Et plusieurs fois, l'expression « persévérer » ou « fais ce qui est bien » revient dans ce psaume. Reste dans les traces que le Seigneur te demande de suivre. Écoute sa parole, prends sa parole comme guide et inspire-toi d'elle pour conduire ta vie. Et tu verras qu'avec le temps, le Seigneur récompensera ta fidélité, mais te montrera aussi que le chemin qu'il nous a donné, c'est le chemin véritable de la vie. Et que d'emprunter des raccourcis ou d'autres voies qui semblent peut-être plus larges, plus confortables, plus faciles, plus belles, ne sont pas toujours celles qui nous feront aboutir dans ce havre de paix auquel nous aspirons. Mais il y a une autre expression que je mets ici aussi sous persévérer, qu'on trouve dans le psaume 37, qui est « Mets ta joie dans le Seigneur ». Remercie le Seigneur. Loue le Seigneur. Adore le Seigneur. Au vu de ce qu'il a déjà fait pour toi, mais aussi au vu de ses promesses et au vu de sa parole. Parce que ce sont des grâces immenses qu'il nous a faites. Et ici, un des secrets du repos et du calme, c'est de prendre ce temps tout simplement pour regarder les raisons qui doivent nous pousser à remercier et être reconnaissants au Seigneur et à trouver en lui notre joie. Et là aussi, peut-être, est-ce que la fébrilité de notre vie fait que nous prenons peu de temps, ou nous n'avons pas assez le temps, ou nous ne savons pas nous arrêter pour, dans un sens, simplement contempler ce que le Seigneur fait pour nous. Pas toujours de la façon dont on le souhaiterait, mais qu'en fin de compte, il le fait quand même. Combien de fois dans les petites choses, la bonté et la fidélité du Seigneur se manifestent? Mais si nous ne prenons pas le temps pour les observer et pour les intégrer, nous sommes pris par tout le reste qui nous inquiète. Et ici, le psalmiste se recommande à lui-même, mais recommande aussi à ses auditeurs, « Mets ta joie dans l'Éternel ». Mets ta joie dans l'Éternel, mets pas ta joie dans ton travail, mets pas ta joie dans ce que tu possèdes, mets pas ta joie dans ton compte en banque, mets pas ta joie dans tes plans de retraite. Mets ta joie dans ce que l'Éternel est pour toi et de ce qu'il te donne véritablement. La deuxième chose dont je parlais, se tourner vers Dieu. Si vous projetez immédiatement au verset 40 de ce psaume, donc vous avez le premier verset qui dit « Ne t'irrite pas, ne jalouse pas » et il y a une pause, on s'arrête, il faut absolument interrompre un cycle. Le dernier verset nous parle de ceux qui se sont précipités auprès du Seigneur qui est le refuge. Et ce sont les deux extrêmes. Ce sont les deux extrêmes. C'est comme d'un côté Marthe, puis de l'autre côté Marie. Lorsque le Seigneur est entré, bien qu'elle était chez elle, bien qu'il y avait des choses à faire, bien qu'il y avait d'autres invités à qui il fallait peut-être laver les pieds, etc. et tout, elle s'est assise auprès du Seigneur pour l'écouter. Elle s'est précipitée dans cet espace où elle était en présence de son Seigneur pour profiter de sa présence, profiter de son enseignement. C'est l'aboutissement auquel nous sommes invités. C'est la recette pour arriver à trouver le repos. C'est de passer plus de temps en présence de notre Dieu. De voir que notre vie est entièrement l'ouvrage de ses propres mains. Que ce qui est le plus important par-dessus tout, c'est notre relation avec lui. Et il y a des expressions qu'on trouve dans la Bible qui dit « Seigneur, tu es mon bien, tu es mon partage ». Comme si nous possédions Dieu comme un terrain ou un bien que nous avions sur cette terre. Toi, Dieu, c'est ce que je possède. Et puis après, il y a d'autres expressions que utilise l'apôtre Paul qui sont quelquefois un petit peu obscures peut-être, mais qui, si on les lit simplement comme ça, elles disent peut-être la même chose. Où notre vie est cachée en Christ. Notre vie est cachée en Christ. La vie n'est pas dans le monde, la vie n'est pas dans nos activités. Mais dès lors que nous sommes nés de nouveau et en Christ, notre vie est cachée en lui. Et Jésus lui-même utilise cette image, là aussi, qui, de façon tellement parlante, dit tout simplement que nous sommes des sarments qui sommes attachés à un cep. Vous coupez le sarment, ben, la sève, elle ne passe plus, et puis le sarment, il se dessèche et il meurt. Et cette image toute simple devrait nous parler pour nous dire à quel point est-ce que nous sommes attachés au Seigneur lui-même, non pas dans une simple obéissance à tous ses commandements et faire bien et faire plein de choses pour lui, mais comment est-ce que dans notre relation avec lui, est-ce que nous sommes intimes, proches? Et pensez à ce verset ou à cet épisode à la fin de l'évangile de Jean, où Jésus, après la résurrection, rencontre Pierre. Pierre, il devait certainement se tenir un petit peu à l'écart. Il laissait les 10 autres un petit peu entre lui et Jésus. Il n'osait peut-être pas croiser à nouveau le regard de Jésus. Parce que la dernière fois qu'il l'avait croisé, c'était au moment où il l'avait trahi. Et là, peut-être Jésus traverse le groupe des 10 autres et s'avance vers lui. Puis la question qu'il lui pose, il ne lui dit pas « j'avais pas raison ». Ce n'est pas ça qu'il lui dit. Il ne lui dit pas « t'as vu ce que tu m'as fait ?» Il lui dit « m'aimes-tu ?» Une seule chose préoccupait Jésus. Indépendamment des événements qui s'étaient passés, indépendamment du cœur de Pierre, indépendamment de sa faiblesse, « Pierre, m'aimes-tu ?» Et 3 fois, il reviendra à la charge pour lui demander « Pierre, m'aimes-tu ?» C'est la seule chose que le Seigneur souhaite, c'est d'être à nos côtés, dans notre présence, et que nous soyons dans une relation de laquelle nous nous nourrissons jour après jour. Et c'est ça, le véritable repos. C'est renoncer à tout ce qui est légitime, tout ce qui devrait se faire, tout ce qui apparemment est bien, pour une seule chose, être dans la présence et aimer notre Seigneur. Et nous pourrions nous comporter aujourd'hui comme des chrétiens et faire nos activités et faire toutes choses bien, mais nous pourrions le faire comme Marthe. C'est-à-dire que nous le faisons pour que notre maison soit en bon ordre lorsque le Seigneur nous rendra visite. Mais le Seigneur dit, tu t'agites et tu t'inquiètes. Ce qui m'intéresse, c'est que tu viennes et que tu sois auprès de moi. Et que nous soyons dans cette relation, que nous nous aimions, que nous partagions ensemble, que je puisse entrer chez toi et souper avec toi. C'est le dernier verset du psaume 37. C'est ceux qui se sont précipités vers l'Éternel comme dans un refuge. Et pour terminer, je voudrais prendre un peu de temps pour parler de la part qui ne nous sera pas enlevée. C'est quoi ce repos? C'est quoi ce repos dont parle l'Écriture? Est-ce que c'est simplement une inactivité? Non, ce n'est pas une inactivité. Ce n'est pas être dans un hamac toute la journée à siroter des pina coladas. Le repos dont parle l'Éternel, il y a un certain nombre de caractéristiques qu'on trouve un petit peu dans le Nouveau Testament, et je voudrais peut-être me porter davantage vers le Nouveau Testament maintenant pour ça. La première des choses, c'est que le repos naît d'une certitude et d'une conviction qui sont fondées sur l'Écriture et attestées par le Saint-Esprit en nous. Nous n'avons pas toutes les réponses à l'interprétation de l'Écriture ni à comment le Seigneur fait des choses ou certains textes qui peuvent être peut-être un petit peu obscurs. Mais il n'empêche, c'est que si on ne s'attache pas à cette parole, si par défaut nous ne sommes pas des personnes qui faisons confiance au Seigneur, même si nous ne comprenons pas, nous serons, comme dit l'apôtre Jacques, des personnes qui seront agitées à tout vent. À un moment, le vent tourne et je vais aller dans ce sens-là, le vent tourne et je vais dans ce sens-là. Mais ici, un des éléments fondateurs de notre repos, c'est que nous ayons la conviction que ce que le Seigneur dit dans sa parole est vrai. Il n'y a pas de repos s'il y a doute et incertitude. Alors encore une fois, cela ne veut pas dire qu'on a une réponse à tout. Mais je vous rappellerai ce verset qui nous dit que la foi est une ferme assurance des choses même qu'on ne voit pas. Nous devons croire la parole même si nous n'en avons pas toutes les explications. La deuxième, c'est cette confiance immuable en Dieu. Là aussi, indépendamment ou même lorsque les événements vont dire le contraire, je crois et je fais confiance au Seigneur qu'il m'aime. Je fais confiance au Seigneur que même si je passe par des moments difficiles, c'est encore sa bonté qui se manifeste envers moi, parce que je sais que les épreuves entre ses mains sont des moyens par lesquels il affermit ma foi. J'ai confiance dans cette situation-là. J'ai confiance que même si l'adversaire viendra m'accuser au moment où j'ai commis une faute, parce que c'est son travail et parce qu'il sait très bien le faire, je dirais non, 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 tu n'as plus à m'accuser maintenant parce que ma culpabilité a été prise. Ma culpabilité a été prise. Et je n'ai plus à ployer sous la culpabilité. J'ai confiance que l'œuvre du Christ m'a ôté ma culpabilité. J'ai confiance que le Seigneur ne changera pas. Que 30 ans après avoir marché avec lui, et que peut-être il a mille et une raisons d'être encore déçu de mon comportement, qu'il ne reviendra pas sur sa décision envers moi. Et qu'il m'aimera toujours. Un troisième élément du repos, c'est le contentement. Et ça, c'est vraiment où alors on se détache complètement des circonstances et du monde dans lequel on vit pour trouver le contentement en Dieu. Lorsqu'on dit que Dieu lui-même est notre bien, Dieu lui-même est notre partage, ce n'est plus le terrain que je possède, ce n'est plus la vie que je possède, mais c'est Dieu que je possède. Et quelles que soient les choses qui peuvent m'arriver, si mon contentement est en Dieu, je peux les vivre. Et vous vous rappelez peut-être, ou peut-être immédiatement vous vient à l'esprit, cette parole de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Philippiens, où il disait « Je sais vivre dans le dénuement, mais je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. » Et ici, il faudrait élargir un tout petit peu le contexte pour bien comprendre que l'apôtre Paul n'a pas trouvé une méthode couée ou une façon, dans une espèce de philosophie, d'arriver à faire face à la vie, mais plutôt que c'est parce que sa vie est en Christ qu'il peut vivre les circonstances en parlant de la sorte. Une quatrième caractéristique du repos, c'est la patience. Une patience qui ne sera pas déçue. C'est d'accepter le fait que le Seigneur agit en son temps. Et que, comme Marthe, peut-être nous agitons. Et qu'on voit les événements et on se dit « ça va bientôt être trop tard, il faut le faire maintenant » ou alors « il faut profiter d'une opportunité ». Une opportunité ne se présente jamais deux fois. Seigneur, fais-le maintenant. Et pourtant, peut-être ceux qui avons déjà un certain nombre d'années derrière nous, nous savons que le temps est un de ces éléments que le Seigneur sait utiliser et qu'il n'est pas limité par le temps. Jusqu'au dernier instant, il est allé chercher le brigand sur la croix. Jusqu'au dernier instant. Quelques semaines avant sa mort, Jean-Paul Sartre a rencontré un chrétien qui a pu lui témoigner. Le Seigneur n'est pas prisonnier du temps. Et il nous demande d'avoir patience et de ne pas désespérer. Parce qu'il est le maître du temps, il est le maître de l'histoire et il sait ce qu'il fait. Une cinquième caractéristique de repos, c'est la paix. Celle dont je parlais tout à l'heure. Mais la paix déjà avec soi-même. Combien de fois est-ce que nous nous accusons nous-mêmes, nous sommes déçus de nous-mêmes. Et pourtant l'Écriture nous dit, mais personne ne peut plus t'accuser. Sinon le Christ serait mort en vain. Tu ne t'aimes pas, mais le Seigneur t'aime. Et si le Seigneur t'aime, quel prix tu dois avoir ? Une sixième caractéristique, la joie, là aussi. C'est de pouvoir, dans les circonstances qui existent et qui nous affectent tous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, de pouvoir prendre le temps tout simplement de se réjouir déjà que même les moments difficiles sont des éléments entre les mains du Seigneur qui l'utilisent. Parce que ça, les textes sont clairs là-dessus. Ce ne sont pas des choses qui nous arrivent par hasard, mais ce sont des moyens que le Seigneur utilise à sa propre fin. Et le texte du psaume 37 nous rappelle à l'envi que jamais le juste n'a été abandonné, que le Seigneur n'a jamais lâché sa main. Il était dans la fournaise avec les trois amis de Daniel. Il était dans la fournaise avec eux et n'a jamais lâché leurs mains. Dernière caractéristique, l'espérance. Oh, on se soucie beaucoup de quel sera l'avenir. Oh, la Grèce va-t-elle rester dans l'euro? Qui va gagner la coupe d'euro, l'euro? Qui et quel va être... Voilà, on se soucie beaucoup. Mais ici, le Seigneur nous demande d'avoir de l'espérance. De ne pas baisser les bras. On peut baisser les bras même à propos de l'Église, on peut baisser les bras même à propos des chrétiens, on peut baisser les bras à propos de notre famille. Et pourtant, le Seigneur ici nous dit, non, ne baisse pas les bras. Parce que moi, je suis venu pour donner la vie, la donner en abondance. Et c'est ça que je vais faire. C'est ça mon projet. Sois patient, persévère, espère, et tu verras. Tu verras un jour, tu pourras regarder en arrière et dire comme le psalmiste, « Jamais je n'ai vu le juste abandonné. » Maintenant, ce qui est intéressant lorsqu'on regarde ces caractéristiques un petit peu du repos, c'est que moi, ce qui me frappe, c'est que ce sont par-dessus tout, non pas des événements, non pas des biens, mais ce sont des qualités spirituelles et des qualités humaines. Le repos ne se trouve pas nécessairement dans le fait que le Seigneur va changer nos circonstances et changer le monde dans lequel nous vivons. Le repos ne se trouve pas nécessairement dans le fait que nous arrêtions d'avoir une activité ou de travailler. Mais le repos se trouve dans la transformation de notre personne sous l'action du Saint-Esprit. Et plusieurs de ces caractéristiques se retrouvent dans ce que l'apôtre Paul décrit comme étant le fruit de l'Esprit en nous. Lorsque le Saint-Esprit nous transforme, nous travaille, que nous le laissons abonder en nous et nous travailler, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on discerne? Qu'est-ce qu'on discerne? On discerne une personnalité qui est transformée. Une personne tout entière qui est transformée. Et qui se revêt de ses caractéristiques. Chers amis, au début de ces vacances, je voudrais vous recommander simplement... Encore une fois, ces textes qui sont extrêmement pratiques. Ce que Jésus a dit à Marthe et Marie, ce que le psalmiste a lui pu voir dans sa propre vie, ce n'est pas simplement une théorie, mais c'est ce que le Seigneur nous invite à faire. C'est tout simplement un moment de nous dire stop. Non, nous sommes engagés peut-être dans certaines choses dans notre vie qui ne nous mènent pas à la satisfaction à laquelle nous aspirons, ni au repos que le Seigneur veut nous donner. Et que peut-être il faut leur redonner complètement un autre sens. Que peut-être au lieu de se consacrer entièrement à cela, il faut, oui, nous consacrer à être en la présence de notre Dieu et de notre Seigneur pour nous nourrir de notre relation spirituelle avec lui, par la méditation de la parole, la prière. C'est ce à quoi le Seigneur nous invite à faire. Et puis, aspirer au repos. C'est aspirer à ce que le Saint-Esprit nous transforme. Et là, c'est peut-être la chose la plus difficile. On aimerait simplement que le Seigneur change les événements autour de nous, qu'on puisse souffler. Puis le Seigneur, il dit, tu sais, le vrai repos, c'est dans ma relation avec toi et c'est dans l'œuvre du Saint-Esprit qui te transforme. Et c'est dans ce fruit que tu porteras sous l'action du Saint-Esprit. Après, quels que soient les événements, quoi que tu aies à faire, que je t'appelle à des choses extrêmement actives, dynamiques, ou qu'il y ait des moments où tu dois être dans une inactivité, cela ne fait rien. Ce qui compte, c'est que ta personne soit transformée et que dans la transformation de ta personne, tu trouves le repos auquel je t'appelle. Chers amis, méditez la parole de Dieu, recèle de conseils que nous pouvons encore pratiquer aujourd'hui. Et s'il y a un verset qui me revient à l'esprit, immédiatement en pensant à cela, c'est ce texte que nous connaissons peut-être pour d'autres raisons que celle que je vais citer, mais qui est de deuxième épître à Timothée au chapitre 3, le verset 16, qui nous parle de l'Écriture, car il nous est dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Chers amis, tenez ces paroles dans votre cœur. Méditez-les. Relisez-les. Et voyez ce à quoi l'Esprit vous invite. Au véritable repos. Celui auquel nous aspirons tous et qui est ce à quoi le Seigneur nous destine. Et quoi que vous fassiez pendant vos vacances, même si vous vous éreintez à faire de la montagne ou autre chose, que vous puissiez quand même revenir dans le repos de l'Éternel et pas simplement dans un ressourcement physique. Je vous invite à quelques instants dans la prière, après quoi la chorale viendra pour interpréter un chant et puis nous prendrons ensemble la Sainte Cène. Seigneur notre Dieu, nous voulons déposer à tes pieds, Seigneur, tout ce qui nous pèse, tout ce qui est un fardeau, Seigneur, et qui nous pousse peut-être à nous irriter ou même parfois à envier les méchants. Et Seigneur, nous voulons te demander que ton esprit nous conduise dans les chemins de la vérité, afin de nous faire découvrir ces chemins, Seigneur, qui nous conduisent au pays promis, ce pays de repos. Mais Seigneur, nous voulons aussi accepter le fait de nous rapprocher de toi, de passer du temps avec toi, Seigneur, de te laisser, toi, nous parler, nous interpeller, nous enseigner. Et que, Seigneur, par l'œuvre de ton Saint-Esprit, chacune et chacun, quel que soit le temps que nous ayons déjà marché avec toi, puisse être transformé de grande gloire à l'image de ton Fils. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour cette promesse que tu nous donnes, le repos. Je veux te remercier pour tes promesses où tu dis que tu nous donnes ta paix, tu nous donnes ta joie. Ces promesses, Seigneur, où tu nous promets que personne ne pourra nous ravir de ta main. Et Seigneur, même si j'ai parfois l'impression que ce n'est pas le cas, je voudrais te faire confiance et me réjouir de ces paroles que tu nous as laissées. Seigneur, ta parole est vivante. Elle est encore actuelle aujourd'hui et nous en avons encore eu le témoignage ce matin. Nous te louons et nous te glorifions parce que tu es un Dieu qui a un projet pour notre vie, qui veut que sa parole, Seigneur, nous transforme. Et pour cela, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Que nous puissions aussi nous exhorter les uns les autres, Seigneur, nous encourager, afin que personne d'entre nous ne s'arrête sur le chemin ou ne baisse les bras, mais qu'il puisse te suivre dans la joie, dans la confiance, renouveler dans ses forces chaque matin. Au nom de Jésus, amen. Une des raisons pour lesquelles peut-être souvent on s'agite, et dans l'Église aussi, c'est peut-être qu'on tombe encore dans ce piège où on pense qu'en nous agitant, on se rendra plus aimable de notre Seigneur. En nous agitant, on sera peut-être plus méritant. En nous agitant, on ira peut-être plus vite que les autres. Et pourtant, ce chant nous rappelle tout simplement que entrer dans le repos de Dieu, c'est entrer en sa présence, et entrer en sa présence, c'est entrer par grâce. Nous pouvons laisser de côté l'agitation qui chercherait à vouloir mériter ce que le Seigneur a fait pour nous. Mais aujourd'hui, nous sommes invités à mettre cela de côté et à faire une chose toute simple, qui est de nous souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous. De le manifester par un geste qui dit « oui, je crois ». D'un geste qui dit « oui, c'est parce que je suis attaché à ce cep qu'est Jésus-Christ que je vis aujourd'hui ». Par un geste qui nous nourrit de dire qu'aujourd'hui je vis parce que Jésus-Christ vit en moi. Je vous invite donc tous à prendre ce repas, à vous réjouir. Parce que c'était un festin à ce moment-là, et ça sera un festin lorsqu'on le fera encore au ciel. Mais c'est aussi une source de joie parce que nous le faisons aussi dans la communion fraternelle. Et j'aimerais inviter maintenant Raymond et Emmanuel à s'avancer. Et chacun priera en notre nom et distribuera le pain et le vin. Je demanderai à Emmanuel de prier pour le pain.
Oui, Seigneur, je ne suis pas digne de ton amour, nous ne sommes pas dignes de ton amour, mais pourtant tu nous as sauvés. Nous en sommes pas dignes et pourtant tu es mort sur cette croix pour nous. Et Seigneur, au travers de cette scène, nous voulons te remercier pour ce cadeau que tu nous as fait, de donner ta vie pour nous, pauvres pécheurs, qui n'étions pas dignes de toi. Amen.
Ensuite, Jésus prit une coupe et la distribua parmi ses disciples en leur disant « Prenez et buvez, ceci est le sang d'une nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi. » Je demanderai à Raymond de prier.
Père éternel, nous voulons te rendre grâce parce que dès le temps de la création, tu as prévu ce jour de repos. Et Seigneur, ce matin, nous te rendons grâce parce que, tout comme Marie, nous avons pu rester au pied du Seigneur pour écouter son enseignement. Et Seigneur, c'est une grâce que de pouvoir nous réunir ce jour que tu as préparé pour nous reposer, pour t'écouter et pour surtout recevoir ce que tu as à dire à chacun d'entre nous. Et Seigneur, nous voulons aussi te rendre grâce parce que c'est vrai, tu es mort et ressuscité. Et ce repas que tu as dressé pour nous, nous voulons le prendre ensemble pour rappeler à tous ce que tu as fait et que tu es vivant, que ton sang a coulé pour nous, pour que nous puissions vraiment nous confier en toi, pas dans nos actes, pas dans nos journées intrépides, Seigneur, mais que nous puissions nous arrêter, t'écouter, te recevoir, être purifiés et savoir que nous ne sommes pas condamnés parce que tu nous as justifiés. Que grâce te soit rendue, Seigneur. Nous voulons te dire tout notre amour. Amen.
Merci pour ce temps de repos de ce matin. J'ai envie de dire, on n'a plus besoin de partir en vacances après ça. Non, c'est pas sympa. Hein. C'est vrai, je me demandais si John, tu voulais vraiment partir après.
Ah oui.
Oui, quand même, c'est bien. C'est vrai qu'on arrive dans le temps des vacances et on a beaucoup de... Chacun des plannings encore plus chargés, j'ai l'impression, pendant nos vacances. Je vous invite à prendre connaissance des activités de l'Église pour cette semaine, des différentes réunions notamment. Lundi, demain, commission travaux. Ceux qui vont à la commission savent qui y sont. Mais pour les autres, priez. On a discuté il y a deux semaines, de dimanche, de ces projets, de ces idées. Pensez aussi aux réflexions qui sont faites par la commission travaux et aux options qui seront prises aussi. Priez aussi pour que la... Ah, c'est pas... C'est... Oui, voilà, vous décalez juste d'une semaine. Hein, vous décalez juste d'une semaine. Oui, il y a un petit schmutz là, oui, évidemment. Bon, c'est pas grave. C'est preuve que vous suivez, hein, c'est bien. Ok, donc demain, lundi, 26, 5, 5, 25, bon. Mais c'est les copieurs là-bas, parce que c'est des faux copieurs. Hein. Sur le planning, c'était juste. Hein. Les preuves sous les yeux, là. Lundi, donc demain, commission travaux à 19h30. Mardi, 26 juin, études bibliques des aînés. Mercredi, 27, chorale. Chorale, il faut emmener deux choses à la chorale, vous vous souvenez. Il faut emmener vos partitions et puis il faut emmener des gâteaux. Vous avez des desserts. Emmanuel voudrait rajouter au chocolat si possible. Mais tant pis, il ne sera pas là, donc on mangera des gâteaux au chocolat sans Emmanuel. Donc on fait une petite soirée gâteau après la chorale. Le groupe d'ados, samedi à 11h. Et puis, voilà. Et dimanche prochain, notre culte ici. J'aimerais vous... Jeudi, il n'y a rien. Il n'y a rien ici, jeudi. J'aimerais vous faire part encore de deux infos. D'abord, on cherche quelqu'un pour le mois de juillet pour s'occuper de mettre un petit bouquet de fleurs à l'église. Voilà, pour aussi que le bouquet de fleurs puisse partir en vacances. Enfin, la personne qui s'en occupe habituellement. Voilà, un petit appel précis. Et puis, c'est donc un temps de vacances... Un temps où il y a beaucoup de camps, où il y a beaucoup de colos qui se font. Je crois que c'est aussi un temps où on peut aussi prier pour ces temps, pour tout ce qui se passera, pour tous les moniteurs qui seront disponibles, et puis pour tout le travail d'annonce de l'Évangile aussi qui se fait dans tous ces camps, que Dieu aussi prépare toutes choses. Et puis prions aussi spécialement pour notre camp ici, notre camp d'été du club d'enfants ici. On peut toujours s'inscrire, il y a toujours de la place, le panneau va encore rester quelques dimanches. Et puis les parents pensent, oui voilà, alors les parents pensez à inscrire vos enfants et aux personnes à qui vous avez donné des papillons, il faut un petit peu les inciter là, un petit peu, insister. Voilà. Pensons aux personnes qui sont souffrantes aussi pendant ces temps de vacances. Liliane n'est pas là aujourd'hui. Si Liliane est là, alors je t'avais pas vu, excuse. Liliane est fatiguée aussi, on peut penser à elle. On peut penser à toutes les personnes qui souffrent et puis qui sont fatigués et pour qui le temps de vacances n'est pas non plus spécialement un temps toujours très facile. Voilà, je vous invite à vous lever. Et puis ce matin, en ouvrant ma Bible au psaume 37 que John nous a lu, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de versets qui étaient entourés qu'un rond. Alors je vais vous les relire, mais on les a déjà lus ce matin, mais ils vont dans le sens de ce chant qu'on a chanté avec la chorale. « Je ne suis pas digne de m'approcher de toi, je ne suis pas digne de ton amour, pourtant tu m'as aimé, et dans tes bras je reçois ton pardon, ta dignité, par ta grâce. » Et nous lisons dans ce psaume, en vrac, quelques versets, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. » Un peu plus loin, « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. » Et puis vers la fin de ce psaume, l'Éternel aime le droit et n'abandonne pas ses fidèles. Espère en l'Éternel, garde sa voie, il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Observe ce qui est intègre et regarde ce qui est droit. Il y a un avenir pour l'homme de paix. Que Dieu nous guide dans ce chemin de paix qu'il nous propose à chacun. Soyez abondamment bénis et bonnes vacances et bon repos à chacun. À dimanche prochain pour ceux qui sont là.